La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Le corps est-il le principe d'une éthique véritable ? Notre réflexion sur le corps mystique a permis la semaine dernière d'articuler mystique et morale pour montrer que l'Église est une société surnaturelle qui ne se comprend qu'à partir de la mystique. Mais elle est en même temps une société morale. Elle a des membres qui sont tenus d'obéir et de respecter les règles morales de la cité et en plus celles du Sermon sur la montagne, des chapitres 5 à 7 chez saint Matthieu. Comment penser philosophiquement le corps comme principe d'une éthique vraie? Y a-t-il d'autres penseurs avant le Christ ou après qui philosophiquement tentent de penser le corps comme principe ou comme étalon, on va dire, d'une éthique? Oui, vous avez tous entendu parler d'Épicure et vous avez une image probablement très fausse d'Épicure puisqu'on parle de l'épicurisme pour désigner en gros la gloutonnerie, la décadence, la grande gourmandise, l'ivrognerie, bref, des sortes de pourceaux qui se livreraient en permanence à des beuveries du style des grandes orgies romaines avec un vomitorium sur le côté puisqu'on avait trop mangé, trop bu. Pas du tout. Épicure, ce n'est pas cela, c'est quelqu'un qui cherche à fonder justement une éthique sur le corps. Je vais rendre la parole à Chantal Jacquet dans son livre Le corps aux éditions PUF, dans la collection Philosophée, parce que je trouve sa présentation particulièrement claire. Au-delà de la morale vulgaire et son cortège de normes imaginaires, le corps demeure toujours le fondement de l'action bonne et peut fournir des règles éthiques véritables, écrit-elle. Le corps livre en effet des normes permettant d'opérer la discrimination entre le bien et le mal. Épicure est l'un des premiers à avoir perçu ce rôle déterminant du corps dans la constitution de la morale. Il proclame, en effet, que le principe et la racine de tout bien, c'est le plaisir du ventre. C'est à lui que se ramènent et les biens spirituels et les valeurs supérieures. Petite remarque. Quand vous lisez la vie de saint Antoine le Grand par saint Athanase, bien vous serez édifié par l'importance accordée au manger et au boire, bien sûr. On a l'impression que cette grande mystique de gens qui ont tout quitté, puisque saint Antoine à 20 ans quitte tout, il est un riche héritier de champs, etc. Il place sa sœur chez l'équivalent de femmes qui vont l'élever, on va dire le premier monastère, et puis lui, il s'enfonce dans le désert de Nitrie, d'abord dans des tombeaux, et puis il va de plus en plus loin. Et finalement, on a l'impression que toute la description qu'en fait saint Athanase, c'est de s'occuper de s'il va manger une galette, une demi-galette, ou un peu moins, va boire un peu moins d'eau, finalement du ventre. Épicure aurait-il raison? Est-ce que la norme de la morale, voire de la mystique, ce serait le corps? Regardons un peu plus loin. Tout être vivant éprouve deux affections fondamentales, le plaisir et la douleur. Et vous le savez, il suffit que vous ayez un tout petit peu faim le soir à 20h pour être déjà sur le point d'être un animal. On va se jeter sur la soupe chaude sous prétexte qu'elle sera froide, l'obésité passe à la trappe, ou on arrive et on ouvre à l'américaine le frigidaire en se servant et il n'y a plus de repas communautaire ou familial. On le sait, c'est parce qu'on a faim. C'est déjà une forme de douleur. Plaisir et douleur, Épicure n'a pas tort. Eh bien, ces deux affections corporelles sont les critères à l'aide desquels l'homme distingue parmi les choses celles qui doivent être choisies et celles qui doivent être écartées. Le plaisir est conforme à la nature, tandis que la douleur lui est étrangère. Rechercher le plaisir, c'est vivre en harmonie avec la nature et obéir à ses lois, de sorte que l'hédonisme est la vertu primordiale. Voilà pourquoi, pour Épicure, dans la lettre à Ménécée, le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Parmi tous les plaisirs, commente Chantal Jacquet, celui du ventre est le fondement de l'éthique, car il ne saurait y avoir de bien pour l'âme si le corps est privé de la satisfaction de ses besoins vitaux. Contrairement à la légende, cette maxime n'est en rien l'apologie d'un matérialisme grossier ou d'une philosophie des pourceaux. La satisfaction de l'estomac, revendiquée ici, se borne à la recherche de l'aponie, c'est-à-dire à l'absence de douleur corporelle, et ne s'apparente pas à la quête effrénée d'une jouissance gastronomique sans fin ni fin au sens FIM et FIN. Le plaisir, pour Épicure, se définit principalement comme une absence de trouble et n'a rien à voir avec des beuveries ou des orgies continuelles de débauchés. Le plaisir réside dans la santé pour le corps et dans la tranquillité pour l'âme. Vous reconnaissez ici la fondation de ce qu'on appelle la taraxie. A privatif, taratein, qui est le trouble, être troublé, il s'agit d'une forme de non-trouble, c'est-à-dire d'impassibilité, que l'on peut atteindre eh bien, s'il y a une sorte de plénitude, de bonheur simple, lié au plaisir et à la satisfaction. Et c'est là que nous nous séparons totalement de la thèse d'Antoine, que j'ai prise tout à l'heure en parallèle, parce qu'il s'agit au contraire, chez Antoine, de dépasser ce plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de montrer qu'on peut s'affranchir du corps en tant que lieu de besoin. L'articulation chrétienne, c'est de décroiser, découpler, on va dire, le besoin du désir. C'est une religion du désir. Dieu a le désir de l'homme. Et du coup, l'homme a le désir de Dieu. Et le désir n'est pas un besoin. Donc, rester tributaire d'une morale de la satisfaction, du plaisir, comme le propose Épicure, c'est pas possible. Parce que finalement, c'est rester encore dans la formule de l'espèce. L'espèce animale, elle est faite pour la reproduction, elle est faite justement pour la satisfaction. Le chat, le chien et les oiseaux vont chercher à se nourrir et peut-être qu'ils ont faim et qu'ils ont une expérience de la douleur et du plaisir, nous n'en savons rien. Mais en tout cas, ils passent leur temps, leur vie, à satisfaire les besoins. Les besoins de toit pour la reproduction, les jolis nids que nous font les oiseaux, les tanières pour se protéger et les besoins de nourriture. L'homme peut transcender le besoin. Et c'est ce dont témoigne un Antoine ermite. Il va transcender le besoin au nom de l'absolu du désir. Le désir de Dieu fait que on va chercher à moins manger. Et cette vacuité, ce manque, permet d'incarner le désir de Dieu qui est aussi un manque. Nous sommes donc à l'opposé. Et si pour Épicure, le corps peut être la jauge, le patron, la mesure d'une éthique vraie, après tout, ce n'est pas absurde, ce n'est pas le critère de la morale chrétienne.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le corps peut-il être le principe d'une véritable éthique ou morale? Pour Épicure, oui, parce que la satisfaction des désirs naturels est nécessaire, se manifeste par le plaisir, et donc cette satisfaction est la condition de possibilité de l'éthique. Le corps, pour Épicure, est non seulement le socle naturel sur lequel s'édifie la morale, selon Chantal Jacquet, mais il est le principe constitutif de toutes les catégories éthiques. Le corps fait office d'étalon et de modèle. La célèbre classification qui permet de distinguer les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et les désirs vains, épouse une norme corporelle selon la lettre à Ménécée. Ce n'est pas l'âme qui détermine arbitrairement quels sont les désirs naturels, quels sont les désirs vains, c'est le corps qui dicte les catégories, instaure une hiérarchie et une ligne de partage. Certes, les désirs nécessaires ne se réduisent pas aux stricts besoins corporels et aux exigences vitales. Ils touchent à la félicité tout entière et mettent en jeu l'âme. Voilà ce que dit Épicure dans la lettre à Ménécée. En effet, parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps et les autres pour la vie même. Si les désirs nécessaires pour la tranquillité du corps, comme l'aspiration à se protéger du froid, et les désirs nécessaires à la vie, comme celui de boire et de manger, relèvent de la chair, les désirs naturels et nécessaires pour le bonheur, parmi lesquels figure le désir de philosopher ou l'amitié, sont plutôt l'apanage de l'esprit. Alors vous allez me dire, mais du coup il y a un lien entre Épicure et la morale, on va dire, d'Antoine, puisque j'ai pris Antoine comme contrepoids à la morale d'Épicure, puisque là on a bien une articulation entre besoin et désir à travers la catégorie de désir naturel et nécessaire, de désir naturel et non nécessaire, et de désir vain. Un désir naturel et non nécessaire serait le désir de l'art. L'homme a besoin d'art pour son bonheur. L'homme n'est pas un animal comme une abeille ou une fourmi qui ne savent pas ce que c'est que l'art, et que, même si elles font des fourmilières et des ruches absolument superbes ou un miel absolument sublime, ce sont d'abord des organisations sociales de travail absolument extraordinaires, mais qui n'ont pas la notion de la transcendance. L'homme est un animal qui se nourrit des transcendentaux, et du coup, l'art, on pourrait dire, est un désir naturel, mais pas nécessaire, parce que ce qui est naturel et nécessaire, c'est le besoin. Donc, on pourrait se dire, finalement, Épicure est aussi un socle pour comprendre la morale chrétienne. Eh bien, non. Allons plus loin. Pourquoi ? Parce que le naturalisme éthique d'Épicure n'est pas réductible à un naturalisme corporel, mais il n'en reste pas moins que la chair fait toujours office de modèle et ses exigences sont mesurées. Toujours dans la lettre à Ménécée, la chair demande impérieusement de ne pas souffrir de la faim, de la soif et du froid. Celui qui est à l'abri de ses besoins et qui a l'espoir de l'être dans l'avenir peut rivaliser de félicité avec Zeus. La morale d'Antoine opère un renversement. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un corps mystique. Il s'agit d'entrer dans le désir de Dieu, d'entrer dans la vie théologale et du coup de dire, là, on peut quitter, on peut transcender la nécessité du besoin qui fait que l'homme est rangé dans une classe d'espèces, dans un ordre animal. La liberté absolue de l'homme va confiner justement à la possibilité de mettre en péril la vie humaine au nom du corps mystique et de la vie unitive et participative à la vie divine. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un désir qui n'est pas un désir nécessaire, naturel et non nécessaire, mais on pourrait dire un désir vital, parce que c'est celui qui définit l'homme en tant qu'homme, qui est le désir de Dieu. Le corps peut-il être donc la jauge de l'éthique vraie. On l'a vu chez Épictète, mais on le voit aussi dans le stoïcisme. On l'a vu chez Épicure et on le voit aussi dans le stoïcisme. Je veux citer Épictète dans son manuel qui traîne dans beaucoup de maisons. C'est donc un compendium d'une morale stoïcienne. Et voici comment la vision du corps chez Épictète est énoncée. La mesure des richesses pour chacun, c'est le corps, comme le pied est la mesure du soulier. Si tu t'en tiens à cette règle, tu garderas toujours la juste mesure. Mais si tu n'en tiens pas compte, tu es perdu. Il faudra que tu roules comme dans un précipice où rien ne pourra t'arrêter. De même pour le soulier. Si tu passes une fois la mesure de ton pied, tu auras d'abord des souliers dorés, ensuite tu en auras de pourpre, et enfin tu en voudras de brodés, car il n'y a plus de bornes pour ce qui a une fois passé les bornes. Donc dans le stoïcisme, le corps, en l'occurrence le pied, fait figure de mesure, d'étalon, de principe, au nom, finalement, vous l'avez vu, de la juste mesure. Il faut ne pas dépasser les choses dans le stoïcisme. Sautons les siècles. Il y a un autre philosophe qui propose le corps comme mesure de l'éthique dans un horizon radicalement différent, c'est Lévinas. Pour Lévinas, l'autre est une menace. Il menace, j'allais dire, ma sphère de liberté. Ce n'est pas du tout un sartrien, mais il y a cette menace économique. C'est-à-dire dans un regard économique, l'autre me menace. Comment quitter cet horizon économique de menace? Eh bien, par le visage. C'est dans le visage de l'autre, à la fin de Totalité et Infini, que la vulnérabilité de l'autre qui s'offre en toute innocence est finalement une jauge d'une transcendance absolue qui m'oblige, moi, et qui fait qu'on passe d'une situation économique de menace à une situation d'absolu respect, d'absolue compréhension, j'allais dire d'amour de l'autre. Autrement dit, le corps reste la jauge d'une éthique absolue et qui fonde l'éthique. Il ne s'agit même pas de fonder une bonne ou une mauvaise éthique, il s'agit de fonder l'éthique. Je vais vous donner quelques extraits, quelques citations. La relation au visage est d'emblée éthique, écrit Lévinas. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins ce dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. C'est donc dans l'innocence du visage qui s'offre à nous que Lévinas lit la possibilité du commandement « tu ne tueras point ». Lévinas affirme à la fin de Totalité infinie que le visage est signification et signification sans contexte. Autrement dit, c'est encore une troisième modalité du corps comme lieu de l'éthique. Et avec Lévinas, on va un peu plus loin. C'est du corps comme lieu d'une éthique absolue qui s'appuie sur une éthique, on va dire, universelle. Parce qu'au fond, le décalogue de Moïse avec ce « tu ne tueras point », on peut considérer que c'est une loi écrite d'une loi non écrite. Et que même si elle est écrite, elle n'est pas relative à une culture. Elle vient finalement poser une loi qui fait partie du substrat humain et d'un substrat de préconscient, comme dirait Maritain. Maritain cherche dans la loi naturelle la marque finalement d'une connaissance par connaturalité, donc préconsciente à la conscience, et qui fait que quand cette loi passe à l'expression écrite, elle n'est pas pour autant tributaire de la conscience. Elle est simplement l'émanation du préconscient. Il donne un autre exemple, c'est celui d'Antigone qui s'oppose à Créon dans la pièce Antigone de Sophocle, où Créon impose une loi, la loi de ne pas enterrer Polynice, dont le cadavre reste la proie des vautours en dehors de la cité de Thèbes, et Antigone va aller recouvrir symboliquement, il s'agit d'une oblation, donc d'un acte religieux, elle met un peu de terre et d'eau, c'est une libation sur le corps de son frère, et elle va avoir affaire à son oncle Créon, qui la prend à part, puisqu'elle a été prise en flagrant délit de désobéissance de la loi de Créon. Et dans ce tête-à-tête, ce face-à-face magnifique hein, de Créon et Antigone, où Antigone va dire « Je ne suis pas née pour la haine, mais pour l'amour », elle dit aussi « Tes lois ne valent rien vis-à-vis des lois imprescriptibles et éternelles des dieux. » Et ces lois imprescriptibles et éternelles des dieux sont les lois du préconscient. C'est les lois qui n'ont pas besoin d'être énoncées. Elles sont énonçables, mais cela ne va pas invalider le fait qu'elle soit déjà dans un préconscient qui est un substrat commun à l'humanité. C'est là-dessus que Maritain fonde la loi naturelle. Du coup, le corps chez Lévinas, on pourrait dire, revient à être non plus seulement une jauge éthique, mais aussi la jauge d'une loi universelle qui serait la loi humaine, celle de la non violence apportée sur l'autre. Je vais terminer sur le commentaire de Chantal Jacquet par rapport à ce corps. Eh bien, elle dit finalement le visage, pour Lévinas, ne renvoie pas à la tête, à l'exclusion des membres et du tronc. Il désigne l'expressif en autrui. Et tout le corps humain est en ce sens plus ou moins visage, c'est dans Éthique et Infinie. Le visage ne se ramène pas à un ensemble de traits physiques. Il fait signe et sens au-delà de sa particularité sensible, de son image visible. C'est pourquoi, à proprement parler, le visage ne peut être vu. Il est, écrit Lévinas, ce qui ne peut devenir un contenu que votre pensée embrasserait. Il est l'incontenable. Il vous mène au-delà. Ainsi, commente Chantal Jacquet, le corps, en tant qu'il se fait visage, incarne la valeur éthique d'autrui et constitue la table de la loi. Certes, le sens du visage n'apparaît pas d'une manière immédiate et purement physique. Il implique une représentation et doit être élaboré par la conscience. Néanmoins, si la relation au visage peut être éthique, cela montre que le corps, dans son expressivité, est le héros de valeur que l'esprit conçoit sous sa dictée. Donc ici, nous arrivons du corps comme patron, jauge, mesure d'une morale vraie, à un renversement. C'est bien le corps, mais le corps dans son expressivité, voire dans son ineffabilité, puisque le visage ne se limite pas au visage, dans ma partie du corps, mais tout mon corps est un visage. Et à quoi, au fond, je peux reconnaître l'homme, sinon à son corps? Quand vous êtes dans une salle, vous savez très très bien que la chaise, dont on pourrait dire qu'elle a un corps, ou que le chien, dont on pourrait dire qu'il a un corps, n'ont rien à voir avec l'homme. Je sais tout de suite que le corps humain va me désigner un homme. Et du coup, le corps renvoie à cette valeur absolue qu'est l'homme et, d'une certaine manière, au corps mystique. À bientôt.